Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes effectivement le 10 Thermidor en deux. Comprenez Mathieu, le 28 juillet 1794, au cœur de la plus terrible période de la Révolution française qui ne cesse depuis 5 ans de tout bouleverser jusqu'au calendrier. Ce jour-là, la chaleur étouffante n'empêche pas la population parisienne de se presser place de la Révolution. Comme spectacle, sous le soleil estival, on vient voir tomber une tête. Et pas n'importe laquelle, celle du célèbre avocat et homme politique Maximilien de Robespierre. Quelques jours auparavant, Robespierre était encore le meneur de la jeune République qu'il a participé à fonder. Pourtant, l'incorruptible, comme on le surnomme, finit guillotiné, piteusement jeté dans une fosse avec ses camarades et recouvert de chaux vives pour mieux détruire son corps autant que sa mémoire. Comment en est-il arrivé là ? Né en 1758, dès ses brillantes études entre Arras et Paris, Maximilien s'imprègne des idées pré-révolutionnaires de ce siècle des Lumières. Les philosophes, dont Rousseau, qu'il admire le plus, ont déjà forgé les esprits au temps nouveau qui s'annonce. En 1789, lors de la réunion des États généraux à Versailles, Maximilien est un représentant du tiers-État, comme tant d'autres, petit bourgeois provincial, fier de participer à ce qui n'est pas encore une révolution. L'Assemblée des États généraux devient législative, puis constituante, et au fur et à mesure que la monarchie absolue vacille, les idées politiques de Robespierre s'affinent. Dans le bouillonnement des réformes, il exprime les opinions les plus modernistes, contre la peine de mort, pour l'égalité des sexes, pour l'abolition de l'esclavage ou encore le suffrage universel. Très tôt, on lui donne ce surnom d'incorruptible, car ses visions et ses idéaux sont bien plus importants que sa petite personne ou ses plaisirs. Robespierre milite pour un homme et pour un monde nouveau. Son ascension accompagne l'affirmation de la Révolution. En septembre 1792, la monarchie disparaît et son roi Louis XVI suivra bientôt car, comme Maximilien le dit lui-même, Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. La République naît, Robespierre se déploie et devient un personnage central. Chacune de ses allocutions au sein du fameux club des Jacobins ravive les ardeurs. Chaque discours au sein de l'Assemblée, désormais nommée Convention nationale, est attendu et ovationné par son parti des Montagnards, opposé à celui des Girondins plus modérés. Sous ses perruques et sa mise en plis apprêtée, Robespierre est un fervent défenseur du peuple, celui des sans-culottes. Il est d'ailleurs grandement apprécié et influent au sein de la Commune de Paris, émanation de l'insurrection populaire qui gronde en permanence. En 1793, la France républicaine est cernée par les armées des monarchies étrangères, fracturée de l'intérieur par des soulèvements et une véritable guerre civile. La situation économique est déplorable, on frise la famine. La République est en danger et c'est dans cette période trouble que Robespierre en devient véritablement le maître, sûrement sincèrement persuadé d'en être le sauveur. Il est, avec d'autres, l'un des artisans de ce que l'histoire a retenu sous le nom de terreur. La Constitution, à laquelle Robespierre a pourtant beaucoup travaillé, n'est pas appliquée. Le pouvoir exécutif se concentre autour du comité de sûreté générale et du célèbre comité du salut public où siège l'incorruptible. Il ne détient pas les pleins pouvoirs, en fidèle légaliste qu'il est. Il n'est jamais seul à décider, mais son ombre plane sur toutes les actions et les décisions. Guidé en permanence par le souci de faire advenir pleinement le régime républicain, il voit d'abord du danger dans l'excès. Ce sont donc les fractions les plus radicales qu'il s'évertue à affaiblir, ou disons-le plus simplement à éliminer. Ce sera ensuite au camp plus modéré de subir ses foudres, les Girondins d'abord, puis au printemps 1794 son propre camp, notamment avec l'exécution du célèbre Danton et même de son ami Camille Desmoulins qu'il a connu au lycée. Cette apparente et glaçante indifférence au sort de ses proches participera de sa légende noire d'implacable coupeur de tête. Nous sommes alors dans une période qui semble a posteriori totalement folle où règne la paranoïa et l'hystérie collective. En à peine plus d'un mois, entre juin et juillet 1794, ce sont pas moins de 1376 têtes qui passent sous le couperet de la guillotine. On peut être jugé pour un rien. Une simple conversation suffit à se voir condamné par le sinistre tribunal révolutionnaire. Robespierre l'incorruptible est d'ailleurs à l'initiative d'une récente loi qui supprime la présence d'avocats et réduit les verdicts à leur plus simple expression. Stop ou encore l'acquittement ou la mort. Le révolutionnaire n'est plus adulé ou respecté. Il est désormais craint. À la Convention, on ne vote plus par conviction, mais simplement par peur de la guillotine. On commence à le traiter de dictateur. On ne voit plus en lui un homme éclairé, mais un mégalomane insatiable. Le peuple, tout comme les députés, ne comprennent pas pourquoi, alors qu'on a pillé les églises et fait déporter les prêtres, Robespierre en vient, en ce printemps 1794, à imposer le culte de l'être suprême, sorte de dieu laïque. Maximilien de Robespierre, président de la Convention nationale, apparaît en maître de cérémonie fastueuse, paré de bleu céleste. Il est au sommet, haut, très haut. Mais sa chute semble inévitable. 3 mois auparavant, Danton, en route vers l'échafaud, passant sous les fenêtres de Robespierre, avait lancé ce prophétique avertissement. « J'ouvre la fosse, tu m'y suivras ». À l'été 1794, les tensions s'exacerbent dans un nœud d'intrigue. Robespierre sait ce qu'on dit de lui et va tenter de raffermir sa position. Le 8 Thermidor, face aux députés, il admet sa responsabilité dans la terreur, mais en rejette les excès sanglants sur ses adversaires. Il réfute les accusations de tyrannie. Mais l'Assemblée ne le soutient plus vraiment. Le soir même, Robespierre et ses partisans se préparent pour en finir et obtenir l'appui de la Convention. Seules 2 options se présentent alors, le succès ou la mort. Le lendemain, le 9 Thermidor, à la Convention qui se déchire, Robespierre est invectivé, hué. On crie « À bas le tyran !» Il ne réussit pas à faire abonder l'Assemblée dans son sens. Il est arrêté sur le champ avec ses camarades. Ce sera donc la mort. Mais dans la nuit, Robespierre se réfugie avec ses compagnons à l'hôtel de ville de Paris, siège de la commune qui le soutient. On songe à l'insurrection. Les députés de la Convention préfèrent parer à cette possibilité et lancent l'assaut du bâtiment. Dans un désordre incompréhensible, un camarade de Robespierre se suicide. Son propre frère se brise le genou en sautant par une fenêtre. Quant à Maximilien lui-même, on ne sait si c'est un gendarme qui lui tire dessus ou s'il cherche à se donner la mort, mais il a la mâchoire presque arrachée par un coup de feu. Après être passé par la case prison de la conciergerie dans l'après-midi du 10 Thermidor, Robespierre et ses partisans sont conduits jusqu'à la place de la Révolution, tant de fois souillés par le sang. Maximilien voit périr son frère et ses camarades avant de passer à son tour en avant-dernier, sous le couperet. Ces derniers instants n'ont pas l'éclat de ceux d'un Danton priant le bourreau de montrer sa tête au peuple car elle en valait la peine. Non, le dernier mot de Robespierre ne fut pas une parole mais un pathétique râle de douleur lorsqu'on lui arracha les bandages qui pansaient sa mâchoire afin de passer son cou dans la lunette de la guillotine. Triste fin. L'histoire, pudibonde, retient le jour de sa chute et non de sa mort comme celui de la fin de la terreur. Sélective, elle retient aussi son nom comme principale incarnation de ce régime meurtrier. Et l'on songe aux mots du député girondin Vergniaud, passé moins d'un an plus tôt sur le même échafaud. La Révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants. Robespierre, le fils prodigue de la Révolution, n'y aura donc pas échappé.
Europe 1, historiquement vôtre.